l'Église et l'histoire des judéo-chrétiens au XXe siècle. Nous avions vu donc la fondation donc de l'Assemblée messianique de Jérusalem par le pasteur Zev Kaufmann. Et nous étions arrivés au moment où, donc, en 1961, il y avait eu donc cession de la part des Assemblées de Dieu des États-Unis d'un immeuble qui était situé donc en plein cœur de Jérusalem, qui avait servi de mission aux dites Assemblées de Dieu avant la guerre de 1948 et qui était donc inutilisé. Et lors d'un voyage qu'il avait fait aux États-Unis, donc le pasteur Kaufmann a eu l'occasion de s'entretenir avec le responsable superintendant général des Assemblées de Dieu des États-Unis, qui lui avait proposé de disposer de cet immeuble-là, étant entendu qu'il l'entretiendrait et il paierait les impôts et taxes diverses qui étaient afférents à cet immeuble. Donc, ainsi fut fait, et ce fut bien sûr un nouveau départ pour l'Assemblée messianique, qui était quand même très petite à cette époque-là, et qui regroupait, somme toute, un nombre très restreint de fidèles. Mais ça, c'était quand même un endroit qui était stratégique et qui donnait à cette assemblée pignon sur rue. C'était juste en face du grand rabbinat. Donc c'était vraiment quelque chose qui était visible et qui a provoqué d'ailleurs parfois un certain nombre de réactions violentes des haridim, des religieux. Il y a eu plusieurs attaques de cet immeuble-là. C'est aussi dans cette période que le pasteur Kaufmann donc avait abandonné son travail, nous l'avons vu la dernière fois, et en même temps que l'Assemblée messianique avait été reconnue par le ministère des cultes comme association cultuelle israélite. Dans cette époque-là, les rapports, nous avions dit, n'étaient pas toujours très faciles avec les Assemblées de Dieu de France, qui comprenaient mal que M. Kaufmann, qui était sorti de leur sein, refuse d'être leur missionnaire. Et les problèmes avec les missionnaires, justement, sont venus très vite, notamment à partir du moment où ils ont été rue Gershon-Aigrois. Il y a eu un petit groupe de pasteurs et de frères, disons, qui se sont groupés pour soutenir à fond le pasteur Kaufmann, alors que, à plusieurs reprises, les Assemblées de Dieu de France avaient décidé de couper les ponts avec lui. Le pasteur Kosek est resté toujours l'ami absolument fidèle. Et il y avait aussi le pasteur Jean Boisaubert de Granville, qui est devenu le rédacteur de la revue Shalom à cette époque-là, qui servait donc d'organe, qui a été créé en 1956 pour servir d'organe de soutien à l'œuvre messianique, puisque le pasteur Kaufmann ne pouvait plus travailler. Nous l'avons vu, il avait perdu son travail vu qu'il prêchait l'Évangile. Il y avait aussi un homme qui a eu un rôle très important dans l'œuvre, c'était l'ancien gangster converti Gaston Lauré, qui avait par la grâce de Dieu, prospéré matériellement, était célibataire, etc. Et il avait à cœur d'aider l'œuvre de Dieu, il avait beaucoup aidé l'œuvre de Tzigane et aussi l'œuvre de Dieu en Israël. Ce fut lui qui, en 1960, acheta la première voiture dont le pasteur Kaufmann avait pu disposer, qui était une vieille Citroën traction en 11, n'est-ce pas, complètement époumonée, complètement dépassée déjà à cette époque-là, et qui tombait en panne presque tous les kilomètres. Mais enfin, qui fut déjà d'un grand secours au pasteur Kaufmann. Et puis, 2 ans plus tard, donc, quand cette citoyenne rendit le dernier soupir, après une carrière bien méritée, il avait contribué pour l'achat d'une autre voiture neuve, cette fois-ci une 404 Break à cette époque-là. C'était donc une voiture tout à fait fonctionnelle à cette période-là. Mais les difficultés aussi sont venues dans la mesure où le pasteur Kaufmann avait la vision de créer un kibboutz messianique. Il s'était rendu compte que beaucoup de jeunes hésitaient à faire le pas de la foi et à s'engager vraiment dans l'œuvre parce qu'ils se rendaient compte que s'ils étaient connus comme professant la foi messianique, ils perdraient leur travail, comme lui. comme ça lui était arrivé à lui d'ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, il avait pensé créer un kibboutz messianique où, bien entendu, là, il n'y aurait plus du tout ce genre de problème, puisque ceux qui viendraient y habiter seraient évidemment pris en charge par le kibboutz lui-même, comme dans chaque kibboutz. L'agence juive était tout à fait favorable. Un terrain, donc, avait été donné, puisque c'était, enfin, c'est pas vraiment donné, une petite location, puisque aucun kibboutz, ni moshav, ni propriétaire des terres, qui sont, selon ce qui est écrit dans la Bible d'ailleurs, propriété inaliénable du peuple juif, mais il y a une location symbolique pour 99 ans renouvelable. Donc, un terrain avait été choisi, avec tout ce qui était adduction d'eau, d'électricité, tout ce qu'on voudra, bâtiment d'ailleurs aussi de services, et il restait bien entendu une somme considérable pour concrétiser le projet, somme dont évidemment le pasteur Kaufmann ne disposait pas, c'est évident. Donc il s'est mis à chercher donc le financement de ce projet, notamment aux États-Unis, c'était là évidemment qu'il avait plus de chance de trouver des fonds. À Springfield, dans la mesure où c'était pas quelque chose qui aurait appartenu directement aux assemblées de Dieu, on lui a fait entendre que n'était pas du tout intéressé. Il est allé voir donc les grands évangélistes, télé-évangélistes de l'époque, Thiel Osborne, Oral Roberts, qui, quand ils ont su que le boss serait le Seigneur, on pensait qu'il n'était pas tout à fait opportun pour eux d'entrer dans ce projet-là. C'est bien que donc Zef Kaufmann est rentré bredouille de son voyage aux États-Unis. Il s'est mis donc à sillonner l'Europe et effectivement, il a trouvé des chrétiens hollandais qui se disaient intéressés par ce projet. Ces gens-là, donc, qui avaient des biens, bon, il y avait aussi des Suisses, beaucoup de Suisses qui étaient, enfin, un certain nombre d'hommes d'affaires suisses qui étaient impliqués dans cette affaire. Et lorsque ces gens-là sont venus en Israël pour examiner le projet de plus près, il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas tout à fait ce que lui avait envisagé. D'abord, on envisageait l'achat de terres à un Arabe, et non pas donc la location selon ce qui se faisait. C'était la coutume, acheter des terres à un Arabe, évidemment, c'était se mettre immédiatement en marge de l'agence juive et se couper immédiatement de cette source de financement et en même temps ne pas s'intégrer dans le peuple, ce que Zef Kaufmann avait toujours voulu faire. Deuxième point, l'Assemblée messianique n'était pas gérante, même pas du projet, n'est-ce pas? Et finalement, le projet était détourné de son but. Il ne s'agissait pas d'accueillir des jeunes messianiques qui cherchaient du travail, mais de faire venir des jeunes chrétiens d'Europe, de Hollande essentiellement, pour rendre un témoignage au peuple d'Israël, d'amour, etc. Mais on s'engageait devant le gouvernement israélien pour avoir l'autorisation de créer cet ensemble, de ne pas faire de prosélytisme. Donc on se demandait quel genre de témoignage pouvait bien être apporté là, celui d'un amour, etc., travail, bon, etc. Alors Zef Kaufmann s'est plaint, a dit, mais enfin, c'est pas du tout le projet initial. Et alors, la réponse fort spirituelle qui lui a été faite était celle-ci: celui qui paye l'orchestre choisit le morceau. Alors, il s'est donc retiré du projet qui est devenu, alors, c'est quelque chose qui existe toujours d'ailleurs, s'appelle le village de Nessamim, en Haute-Galilée, dont était originaire d'ailleurs le jeune garçon qui a été tué là dernièrement à Gaza, dont tu as parlé, David, dans Keren, tu sais, Verbelen. Était originaire de là. Donc, ça a été une grande déception, un coup très dur. Et il y a eu d'autres coups durs, c'est que le problème d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est que chaque église, chaque union d'église veut avoir son missionnaire, son représentant en Israël. Ce qui fait qu'Israël est le pays le plus évangélisé du monde, où il y a le plus d'œuvres chrétiennes au kilomètre carré, de telle sorte que il y a aussi évidemment une concurrence effrénée avec ce que André Chouraki appelait le business des âmes. Les différentes missions se volent les ouailles les unes des autres dans le but évidemment de grossir le maigre troupeau qui est le leur. Et donc la rue Gershon Agron est devenue très vite une plaque tournante où du monde entier venaient des visiteurs. C'était le fait qu'on pouvait descendre là sans bourse déliée d'ailleurs, ce qui était d'ailleurs assez remarquable. C'est que Zef Korsman ne demandait jamais un sou à ceux qui venaient donc passer un temps dans cet ensemble-là, où il y avait de nombreuses chambres. Il a accueilli des groupes de touristes entiers, n'est-ce pas, qui venaient là pour des voyages de découverte, quoi. Que tout le temps, ils étaient à Jérusalem, ils logeaient là. Eh bien, donc, c'est ainsi que des évangélistes américains, des grands évangélistes américains sont venus, parfois, et notamment un qui se nommait Gordon Lindsay, et qui a demandé à Zef Korsman de devenir son missionnaire, lui proposant donc un salaire infiniment plus intéressant que celui qui lui était accordé par, évidemment, la revue Shalom, une voiture qui était beaucoup plus performante que la vieille traction, enfin, quelque chose de magnifique, quoi. Alors, Zef Korsman a répondu que ça n'intéressait pas. Lui, il était là, un parmi le peuple. Il préférait donc vivre de plus simplement et rendre témoignage comme il l'entendait. Il y avait dans son missionnaire un jeune garçon qui était policier et qui avait sa chambre là. Il était jeune célibataire. Et Gordon Lindsay, dépité de voir son offre rejetée par Zef Korsman, s'est tourné vers ce garçon, et qui lui n'avait strictement aucune formation biblique, théologique ou autre, n'est-ce pas ? Il lui dit, toi, ça n'intéresserait pas de devenir missionnaire avec une voiture, avec un salaire, avec ci, avec ça. On pensait bien que le garçon a bondi sur l'occasion. Et c'est ainsi que, donc, une scission a eu lieu au sein de l'Assemblée messianique. Bon, quelques temps après, ou quelques temps avant, plus exactement, je crois que c'était plutôt avant, le même phénomène avait eu lieu avec un jeune stagiaire d'origine tunisienne que Zef Korsman avait avec lui, il s'appelait Victor Smadja, et qui lui a été débauché de cette manière-là par une mission finlandaise luthérienne. Voilà, donc ça a été deux coups très durs, n'est-ce pas ? Deux divisions coup sur coup dans une petite œuvre, évidemment. Créé tout simplement par des gens qui étaient sans scrupules, qui n'avaient d'autre but que d'avoir leur affaire en Israël, leur missionnaire, et si c'est en plus de ça, ça peut être un juif, évidemment, c'est encore beaucoup mieux, ce qui était évidemment tout à fait l'inverse de la vision de Zef Korsman. Donc il y a eu des temps très difficiles pendant ces années-là, à cause de ces attaques des chrétiens étrangers, pourrait-on dire, quoi, hein, c'était... essentiellement de là que venait le problème. En 1967 a eu lieu la guerre des Six Jours, et là, des contacts ont été pris avec des assemblées arabes de la ville de Jérusalem et de Bethléem. Ces assemblées se sont plus ou moins délitées avec le temps. Beaucoup de ces chrétiens arabes sont partis aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc., si bien que ces œuvres ont périclité. Mais Zef Korsman avait le désir vraiment très fort de collaborer avec les chrétiens arabes. En 1970, a eu lieu alors un autre coup dur. Les Assemblées de Dieu américaines avait l'intention de construire un collège biblique continental en Europe, à Waterloo très exactement, en Belgique, et pour cela avait besoin de fonds, d'argent. Et ils ont averti donc Zef Korsman que l'immeuble de la rue Gershon-Agron allait être mis en vente pour pouvoir financer la création de cette nouvelle école biblique de Bruxelles. Zef Korsman a fait son possible pour empêcher ce qu'il considérait comme une forfaiture, d'autant que cet ensemble-là a été racheté par des religieux. De sorte que ces derniers ont considéré, avec raison d'ailleurs, qu'ils avaient remporté une victoire contre le chef des missionnaires, Zef Korsman, c'est comme ça qu'ils le considéraient, n'est-ce pas ? Et il y avait même eu un complot pour le tuer en 1967, au moment de la guerre des Six Jours, profitant de ce que la foule irait au mur occidental dans les jours qui ont immédiatement suivi la libération de Jérusalem. Un groupe de religieux fanatiques avait décidé de le poignarder donc pendant qu'il serait là-bas. Et c'est finalement d'autres religieux qui ont dit non, on ne peut pas faire ça, etc. Bon, sa vie a été sauvée de cette manière-là. Donc, il était évidemment celui qui était le plus redoutable parce que justement, il avait cette vision-là. Et un des représentants du ministère des Cultes, s'entretenant avec Fred Cossack et Yvon Charles, leur avait dit à peu près ceci. Il dit, les missionnaires ne nous inquiètent absolument pas. Le jour où on en aura assez d'eux, on les mettra dehors. Mais lui, c'est lui qui est dangereux. Parce que lui, il est un des nôtres. Parce que lui, il s'incruste au milieu de nous. Parce que lui, il a la connaissance du Talmud, de la tradition juive, etc. C'est lui qui est dangereux. Et alors, quand cet immeuble a été vendu, eh bien, évidemment, c'était une grande victoire pour ces gens-là qui avaient été remportés. L'assemblée, la petite assemblée, était sur la rue. Et là, donc, il y a eu un miracle. Une somme a pu être rassemblée par le nom de chrétiens européens, notamment, pour acheter un autre immeuble rue des Prophètes. C'était plus le 23, où les Kaufmann avaient commencé tout à fait en 1948, mais c'était plus haut dans la rue, l'endroit où l'Assemblée messianique est d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui, bon, n'était pas un immeuble sans intérêt, dépourvu d'intérêt, loin de là. Bon, il avait quand même pour inconvénient d'être moins bien situé que ne l'était la rue Gershon-Agro. Et a commencé alors une nouvelle étape, qui a été la dernière de la carrière de Zev Kaufman, qui déjà, depuis un certain nombre d'années, souffrait de problèmes cardiaques, dus à tous les stress qu'il avait subis auparavant, bien sûr. Et notamment, Zev Kaufman avait toujours eu, vous le savez, la soif d'une unité des messianiques en Israël. C'était ce qu'il avait essayé de réaliser dès son arrivée dans le pays en 1948. Et c'était toujours son souhait, son rêve. Quand il voyait des jeunes comme Smadja, comme Shlomo Chiza, comme d'autres qui appartenaient à d'autres missions, un certain Goren notamment, il trouvait que c'était un contre-témoignage. Il avait parfaitement raison. Et alors, il avait à plusieurs reprises proposé de rassembler tout ce monde-là sous le chapeau qu'il avait obtenu du ministère des Cultes, celui d'une association israélite cultuelle, culturelle israélite plus exactement. Mais bien entendu, se posait toujours le problème du leadership, c'était toujours la question. Finalement, Zev Kaufman, dans un grand élan, on pourrait dire, de renoncement, d'abnégation, mais peut-être aussi un peu naïf, un peu d'idéalisme, d'angélisme peut-être aussi, a dit, bon, bien écoutez, faisons cette union et nous serons tous à égalité. Il n'y aura pas de leader, il n'y aura pas de chef. Et alors, cinq missionnaires, entre guillemets, dont Victor Smadja, qui avait quitté en son temps dans les conditions que l'on sait et qui n'avait cessé de le combattre, donc se sont rassemblés pour former une assemblée messianique qui, évidemment, grossie de cinq autres petits groupes, est devenue quand même un peu plus conséquente qu'elle ne l'était auparavant. Donc, sur ce plan-là, ça donnait l'impression d'une progression. En fait, ça s'est révélé assez vite être une erreur, dans la mesure où d'abord, il y avait des nuances théologiques très diverses entre finalement quelqu'un qui était quand même d'origine pentecôtisante comme Zev Kaufman, Victor Smadja qui venait d'une mission luthérienne finlandaise, donc anti-charismatique, et à la limite pédobaptiste, bien que lui-même il baptisait les adultes. Bon, d'autres groupes aussi avaient d'autres options théologiques. Finalement, c'était aussi le drame, et c'est toujours le drame d'Israël jusqu'à aujourd'hui sur le plan messianique, c'est que chaque groupe est le reflet d'une tendance théologique venue de la diaspora, des églises pagano-chrétiennes, pourrait-on dire, qui est à l'origine de l'œuvre. Les premiers missionnaires qui ont fondé l'œuvre ont laissé leur marque. Bien. Donc la coexistence de ces différentes tendances n'a pas été facile. Il y avait ensuite, dans beaucoup de ces églises aussi, des non-juifs, et même parfois une majorité de non-juifs, qui n'ont pas très bien accepté, la vision assez judaïsante de Zef Kaufmann, qui était beaucoup plus classique dans leur piété et dans leur théologie. Bien que Zef Kaufmann était très prudent dans ce domaine-là et évitait de pousser trop loin, il avait un slogan qu'il répétait constamment, le temps des réformes est passé, je ne suis pas Luther, je ne suis pas un réformateur. Bon. Mais enfin, il avait quand même son style, il avait quand même sa vision, et cette vision n'était pas toujours, ne faisait pas l'unanimité, notamment en ce qui concernait les non-juifs. Bon, dans ces années-là aussi, les dernières années de sa vie, finalement, la santé de Zef Kaufmann déclinait aussi. Et donc, il avait tenté aussi de lancer dans la diaspora un grand mouvement de retour à Sion des juifs qui étaient dans les églises de la diaspora, les juifs messianiques. Et en 1969, avec le pasteur Kosek, avec Ove Falg, qui lui avait toujours eu, était toujours aussi très proche de Zef Kaufmann, avait toujours la vision d'Israël, ils avaient organisé à Paris un grand congrès messianique pour inviter les juifs messianiques qui étaient dans toutes les églises de la diaspora à venir en Israël. Et parmi eux, il y avait le pasteur Guenassia qui avait rencontré le Seigneur en Algérie pendant le réveil de Pentecôte qui avait marqué les dernières années de l'Algérie française et qui était lui-même juif. Il avait rencontré le pasteur Kaufmann et ce dernier donc l'avait invité à venir à Jérusalem, le seconder. D'ailleurs, il envisageait qu'il puisse lui succéder. Et bon, devant les difficultés d'adaptation dues au pays, différents problèmes qui étaient nés alors, Paul Guenassia avait donc décliné l'offre. Et c'est au moment de ce fameux congrès de 1969 que finalement la rupture avait été consommée entre Guenassia, qui voulait créer une assemblée messianique à Paris, et Zef Kaufmann, qui s'attendait à ce qu'il fasse son alia. Zef Kaufmann a lui expliqué que créer une assemblée messianique dans la diaspora, c'était la négation même de la vision messianique, parce que justement, le messianisme, c'était quelque chose du pays, de la terre et du peuple. Et des assemblées messianiques ne se concevaient et ne se justifiaient que sur la terre d'Israël. Mais pour des raisons matérielles, disons, Paul Guenassia a donc refusé. Donc ça a été l'échec aussi de cette tentative. Et là-dessus, donc, bon, c'était évident aussi sur le plan, ça a eu des répercussions sur sa santé. Et petit à petit, il a été plus ou moins supplanté justement par les plus jeunes prédicateurs qui étaient dans cette équipe des cinq, notamment par Victor Smadja. Et lorsque ce dernier s'est senti suffisamment fort, il a exclu, n'est-ce pas, Zef Kaufmann de l'œuvre qu'il avait lui-même fondée. Et il en est mort, évidemment, dans les mois qui ont suivi, Zef Kaufmann n'a pas supporté. Bon, c'est certain que l'aventure s'est terminée d'une manière brutale. Et somme toute, à partir de ce moment-là, l'Assemblée messianique de Jérusalem a dévié complètement de la vision initiale, de la vision du pasteur Kaufmann, et est devenue une mission parmi d'autres, on peut dire. Enfin, perdons complètement cette dimension juive et d'implantation dans le pays israélienne, de retour aux sources qui était celle du pasteur Kaufmann. Depuis lors, les choses ont évolué aussi un peu en Israël, dans ce sens que, un peu comme partout d'ailleurs, ce qu'avait toujours dit le pasteur Kaufmann, les missionnaires ont été obligés de passer la main, comme en Afrique, comme en Asie et comme dans le tiers-monde, n'est-ce pas, pour laisser les œuvres qu'ils avaient fondées aux indigènes. Il y a des indigènes en Israël aussi, bien sûr, aussi étrange que ça puisse paraître, qui n'étaient d'ailleurs pas indigènes, qui étaient souvent nés ailleurs que dans le pays, mais enfin bon, étaient considérés comme, comment est-ce qu'on dit, des natives, on dit en anglais, c'est pas des natives. Bon, alors les natives ont pris plus ou moins les choses en main, un peu partout, même si certains missionnaires restent encore très présents derrière, et puis surtout si beaucoup de ces œuvres sont encore, comment dirais-je, dirigées de l'étranger, des quartiers généraux dont ils dépendent, quoi. Et donc, on a vu naître alors des œuvres qui devenaient autonomes et qui, de ce fait, reprenaient le nom de messianique. Et cela, à ce moment, c'était amusant parce que autant M. Corsin a été combattu pour avoir employé le mot messianique, autant maintenant tout le monde est messianique, comme après la victoire de Mitterrand aux élections de 81, tout le monde était socialiste, même des gens qui, évidemment, n'avaient strictement rien à voir avec ça, quoi. Hein. Bon. Alors aujourd'hui, toutes les églises d'Israël, quelle que soit leur couleur, leur tendance théologique, leur mission, etc., se disent église messianique ou assemblée messianique. Bon. C'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, si ce n'est que, évidemment, on a trouvé ça commode pour, dans le pays, essayer de s'intégrer. Ça veut dire que quand même, un peu de la vision de M. Kaufmann est passée. Alors, il y a d'autres œuvres qui ont été créées à partir de l'arrivée aussi d'immigrants russes et éthiopiens, qui avaient déjà une connaissance de l'Évangile dans les pays d'origine dont ils étaient originaires ou qui sont venus grossir des assemblées déjà existantes. Si bien que depuis quand même la mort de M. Kaufmann, qui a eu lieu en 1976, il y a aujourd'hui, d'après ce que je me laissais dire par un frère messianique que j'ai rencontré dans mon dernier voyage en Israël, entre 2000 et 7000 messianiques dans le pays. Bon, sur un pays quand même de 5 et quelques millions d'habitants, c'est pas énorme, surtout si on compte le nombre d'œuvres qu'il y a là-bas, de missions, comme je disais, le plus grand nombre au kilomètre carré. Pourquoi une telle fourchette, une fourchette aussi large, 2000 à 7000, c'est beaucoup. Eh bien, parce que me disait ce frère, tout simplement, il est difficile d'avoir une idée exacte parce que beaucoup fréquentent ces églises plus ou moins clandestinement. Et pour des raisons semblables à celles que j'évoquais, travail, réputation ou autre, ne veulent pas être répertoriés comme messianiques. Ce sont un petit peu des nicodémites, si vous voulez. Alors, ça, voilà, c'est la fourchette, quoi, hein, entre 2 000, 2 000, 3 000, disons, et puis 6 et 7 000, selon qu'on compte large ou pas, quoi. Voilà. Donc, voilà la situation actuellement en Israël. Maintenant, dans la diaspora, il y a eu parallèlement un mouvement tout à fait intéressant et tout à fait impressionnant, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, où la religion juive, très importante, puisque la communauté juive américaine est la première du monde, il y a 6 millions de juifs aux États-Unis, donc un tiers du peuple juif vit aux États-Unis. Et là, donc, il y a une crise religieuse grave au sein, justement, du judaïsme américain. Beaucoup de communautés, beaucoup de juifs sont détachés de toute communauté juive. Il y a aussi une crise terrible à cause des mariages mixtes. Beaucoup de juifs épousent des non-juifs et vice-versa, de telle sorte que souvent, justement, ces gens cessent de fréquenter les synagogues à partir du moment où ils sont mariés. Et c'est alors que s'est produit donc un grand mouvement au milieu du judaïsme américain. Bon, un mouvement qui avait commencé, disons, en 1917, pour remonter aux origines, où un certain Léopold Cohen, qui était originaire d'Europe, qui avait connu l'Évangile en Europe, avait émigré aux États-Unis. Et là, donc, il a été un des pionniers de l'évangélisation des Juifs. Il s'est installé au milieu des quartiers juifs de New York. Et là, donc, il a commencé à prêcher l'Évangile dans des conditions très inconfortables, parce que, comme beaucoup de Juifs messianiques, enfin Juifs ont cru en Jésus, du moins, on ne pouvait pas encore parler de messianique à cette période-là. Léopold Cohen était suspect aux yeux des chrétiens non juifs, des chrétiens, des pagano-chrétiens, et il devait donner des signes de loyauté, au christianisme. Léopold Cohen a néanmoins bénéficié de l'esprit de tolérance qui règne aux États-Unis, beaucoup plus qu'ailleurs, évidemment. Alors que au XIXe siècle, en Allemagne en particulier, il y avait eu des conversions en masse au protestantisme, par opportunisme, autant d'ailleurs que même par conviction, quelques-uns. Et on n'exigeait pas, comme lors de l'Inquisition, qu'ils renoncent à leur origine juive, mais par contre qu'ils donnent des gages, quoi. Hein. En 1866, à Londres, avait été créée une organisation qui s'appelait les Fils d'Abraham. Et c'est là, justement, que Léopold Cohen avait connu l'Évangile. Arrivé à New York, donc, il avait commencé son travail d'évangélisation avec sa femme en créant une école de couture pour filles et en même temps faisant tout un travail de réflexion théologique. Et notamment, Léopold Cohen a été un des premiers à assimiler les trois personnes de la Trinité aux trois Partsoufim qui sont décrites dans le Zohar, donc dans la Kabbale. Et là, donc, il a fait un travail tout à fait important. Lorsque a eu lieu le premier congrès sioniste à Bâle en 1897, Léopold Cohen y a vu une œuvre de Dieu, une action du Saint-Esprit, et il a donc continué à travailler à l'évangélisation de son peuple aux États-Unis jusqu'en 1937, où il est mort, date de sa mort. Son fils, Joseph Cohen, lui a succédé et, en relation avec des églises évangéliques là-bas, et il a voulu montrer que les Juifs qui ont cru en Jésus sont les meilleurs Juifs qui soient. Voilà, c'était sa méthode d'évangélisation, c'était son slogan. Il faut que nous montrions que nous sommes les meilleurs Juifs qui soient. Mais Joseph Cohen a été confronté à l'antisémitisme rampant des églises, même aux États-Unis, de telle sorte que jusqu'en 1950, il y avait peu de sympathie parmi les évangéliques pour des œuvres comme celle justement des Cohen. Et ces derniers donc avaient créé ce qu'ils appelaient American Hebrew Christian Alliance, Alliance des Hébreux chrétiens. On ne voulait pas employer le nom de juifs convertis, bien sûr. Juifs chrétiens, ça sonnait mal aussi. Alors finalement, on avait choisi l'expression Hébreux chrétien. C'était cette expression qui avait précédé donc l'expression messianique. Donc ça, c'était l'expression qui venait essentiellement de Léopold Cohen. Et cette union avait été créée en 1917 lors d'une conférence qui avait rassemblé différents groupes d'évangélisation parmi les Juifs. À partir des années 50, il y a eu une évolution de la société aux États-Unis qui a fait que la plupart des Juifs se sont mis à souhaiter essentiellement des préoccupations beaucoup plus matérialistes que théologiques, surtout chez les jeunes, de telle sorte que l'impact de la religion juive et par conséquent, comment dirais-je, le rejet du christianisme a été moins fort chez ces jeunes-là. Donc, il y a eu, à partir des années 50, chez les juifs, les jeunes juifs détachés du judaïsme, beaucoup d'indifférence, mais aussi une certaine ouverture, beaucoup plus facile que parmi ceux qui étaient évidemment très marqués encore par la religion. C'était aussi l'époque du sionisme et les Cohen, père et fils, ont accordé un appui sans faille au sionisme. S'opposant cela d'ailleurs à des mouvements socialistes juifs tels le Bund, et aussi évidemment se sont mis à dénoncer très fort l'antisémitisme. Et les choses ont quand même plus ou moins végété jusqu'en 1970. Et là, à partir des années 70, fin des années 60, disons, quelque chose de tout à fait étonnant s'est produit. Bon, faut dire que là, il y a trois facteurs qui ont contribué à cette évolution. Le premier, c'est la guerre des six jours. Guerre des six jours qui a eu évidemment un gros impact sur les Juifs américains, sur les Juifs du monde entier, mais les Juifs américains également. Et en même temps, on pourrait dire, alors dans une vision théologique et spirituelle, c'était en quelque sorte le début de la fin du temps des nations, le commencement de la fin, pour reprendre l'expression de Churchill, du temps des nations. Et par conséquent, à nouveau, comme si Israël reprenait un petit peu le devant de la scène, y compris sur le plan spirituel. Bon. Le deuxième facteur, c'était les mouvements des 60s, la Beat Generation, les hippies, etc. Beaucoup de jeunes juifs étaient aussi touchés par cela, et c'est dans ce contexte-là qu'a eu lieu, vous vous en souvenez, nous en avons parlé abondamment, le réveil des Jesus People. Beaucoup de jeunes juifs qui étaient détachés de toute religion ont été touchés par le mouvement des Jesus People Et donc ont été amenés aussi à, alors qu'ils étaient détachés de leurs racines juives, à se poser la question de leur identité juive, maintenant qu'ils avaient redécouvert le Messie. Très intéressant de voir que les gens qui n'avaient d'autre but que de s'assimiler, finalement, quand ils se découvraient Jésus le Messie, se reposaient la question de leurs racines juives. Quatrième facteur, c'était le mouvement charismatique, dont finalement le mouvement des Jesus People était un avatar, n'est-ce pas, qui faisait que l'Esprit de Dieu se répandait sur les États-Unis, partout, l'Église catholique, et y compris aussi, justement, dans le judaïsme. Et alors a eu lieu à ce moment-là le réveil, un réveil particulier qui était contemporain du réveil charismatique catholique, qui était contemporain du réveil des Jesus People, qui était ce qu'on appelait le mouvement des Juifs pour Jésus, Jews for Jesus, en anglais. Il y a eu une convention mémorable qui s'est tenue en 1970 dans un endroit qui s'appelle Messiah College, dans le district de Columbia. Et là, le Saint-Esprit est descendu d'une manière puissante sur ceux qui étaient rassemblés dans cette convention-là, en particulier sur les frères Tchernoff, qui étaient des juifs d'origine russe, et qui étaient à la tête de ce qu'on appelait l'Alliance chrétienne hébraïque, qui était une dissidence du Hebrew Christian Alliance, qui avait été fondée par les Cohen, et qui donc était une autre tendance. Les deux tendances étaient donc rassemblées au Messiah College, de telle sorte que, à partir des années 70, les remplis du Saint-Esprit, ces jeunes juifs sont allés entreprendre l'évangélisation dans les quartiers juifs. Souvent, ils étaient molestés, ils étaient attaqués, ils étaient battus, etc. Mais le feu de l'Esprit brûlait dans leur cœur et donc ils s'affichaient d'une manière tout à fait forte et tout à fait ouverte. Et l'impact qui a été le leur a été extrêmement puissant. De nombreux juifs se sont tournés vers Jésus, ce d'autant que, justement, on ne les invitait pas à rejoindre des églises chrétiennes, comme ça avait été le cas jusqu'alors, mais à se joindre à des congrégations que l'on a commencé à cette période-là, sous l'influence aussi de ce qui se passait en Israël avec le pasteur Kaufmann, on a commencé à parler de congrégations messianiques, « messianic congregations ». Alors, le but, c'était de dire que les Juifs, quand ils se tournent vers Jésus, on reprenait finalement ce qui avait été la base de la vision de Joseph Kosman, ne cessent pas d'être Juifs, et par conséquent, n'ont pas obligatoirement à adopter la culture des pagano-chrétiens. Et alors, on a les Tchernoff en particulier ont poussé à la création de congrégations messianiques où la culture serait juive. Qu'est-ce qu'on appelait culture juive ? Ben, ça veut dire la musique. Une musique qui n'était plus les chants luthériens ou calvinistes du XVIe ou ceux des réveils du XIXe parmi les évangéliques, mais des choses qui étaient créées pour à partir de la musique folklorique juive. Ça voulait dire le respect des fêtes, ça voulait dire très vite le problème du Shabbat. Nous allons voir justement que ça, c'est un des problèmes qui se posent aux congrégations messianiques aux États-Unis, et puis aussi tous les problèmes relatifs à la Torah. Faut-il respecter la Torah et jusqu'où la Torah est-elle abolie? Enfin, tous ces problèmes qui étaient ceux de l'Église ancienne, de l'Église juive ancienne, et qui se retrouvent maintenant, évidemment, à partir du moment où on a aussi toute une aile de l'Église qui va se retrouver être juive d'origine. Bien, alors, ce que Zev Kosman, qui était disparu à cette époque-là, n'est-ce pas, aurait critiqué dans ce domaine-là, il disait « Mais votre place est en Israël ». Quelques-uns ont fait cette démarche, notamment le frère que nous avons rencontré, nous avons raconté ça, pas comment il avait été convaincu au cours d'un voyage en Israël que sa place était véritablement là, et lui qui avait été très actif dans le mouvement des Jews for Jesus, les Juifs pour Jésus, avait tout abandonné justement pour venir s'installer en Israël. Mais il est certain que la même les mêmes problèmes que ceux qui s'étaient posés pour Paul Guénassia en France ont produit les mêmes effets, à savoir que les difficultés de s'installer en Israël étaient telles que beaucoup de juifs messianiques américains ou hébreux chrétiens américains, comme ça s'appelait à cette époque-là, ont préféré rester là-bas et créer donc des assemblées, des congrégations hébreux chrétiennes ou ensuite qui sont devenues tout simplement messianiques, avec donc un accent très fort justement sur la culture, parce que finalement c'était seulement la culture qui les distinguait des pagano-chrétiens. Alors donc il y a une folklorisation très forte dans beaucoup de ces églises-là, alors que les assemblées messianiques d'Israël, qui sont dans un milieu juif, elles, par le fait que la majorité du peuple est juif, n'ont pas besoin justement de ce folklore-là, de cette folklorisation. Bon. Alors, en 1973, donc, Tchernov est devenu le président de cette nouvelle alliance qui avait été créée. Et c'est en 1974, tous les ans, ces gens ont une conférence nationale qui se tient au fameux Messiah College, dans le courant du mois de juillet, je ne sais plus exactement la date. J'ai reçu parfois des invitations pour y aller, bien entendu, je suis jamais allé. Et donc, en 1974, il a été décidé que le Hebrew Christian American Alliance prendrait le nom de Messianic Jewish Alliance of America, Alliance messianique juive d'Amérique. Alors, dans la même année, on a réintroduit dans le culte la liturgie synagogale. C'est-à-dire que les pasteurs ont pris le nom de rabbin messianique. Les lieux de culte sont devenus synagogues messianiques. Bon, jusque-là, ça ne me dérange pas trop. Bien que ça fasse un petit peu drôle, et certains que les rabbins orthodoxes ont grogné pas mal quand ils n'étaient pas prêts à reconnaître, évidemment, comme leur alter ego, les rabbins messianiques, entre guillemets. Bon, on porte le talit, souvent la kippa. Il y a donc toutes les prières juives qui sont récitées, la lecture de la Torah à partir de Megillot, de rouleaux, n'est-ce pas, écrit à la main. Voilà, on a réintroduit la liturgie synagogale. Bon, ça n'a pas été sans poser problème, évidemment, avec les pagano-chrétiens, et notamment les Tchernov ont été obligés de quitter les assemblées de Dieu dont ils étaient membres, n'est-ce pas, à cause de cette... finalement, de ce retour à la Torah, on a accusé les Tchernov et tous ces gens-là de reconstruire le mur de séparation que le Seigneur avait détruit par sa mort, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 2, Éphésiens 4, et d'avoir reconstruit le mur de séparation entre juifs et chrétiens dans l'Église, alors que bon, il n'y avait plus ni juifs ni grecs, etc. etc. Bon. Alors, à partir de là, donc, les juifs messianiques d'Amérique ont été contraints de répondre à ces attaques dont ils étaient l'objet. Et il y a eu tout un travail de théologie qui a été effectué, de réflexion doctrinale, disons, avec le théologien du mouvement messianique américain qui s'appelle Juster. Certains ont des positions. Alors, il y a tout un éventail très, très vaste. Entre des positions ultra-judaïsantes pour certains et d'autres qui sont beaucoup plus souples, n'est-ce pas? Alors il y a eu aussi donc une expansion très grande dans ces années, dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Il y a eu alors là création de nombreuses assemblées de ce type-là pour évangéliser les juifs. Dans ses premières années, donc juste avant sa mort, M. Kosman considérait les choses d'un œil très bon, disant que bon, c'était une étape, c'était normal que bon, se crée à la limite des assemblées de ce type-là, dans lesquelles les juifs pouvaient être, mais qu'il faudrait ensuite que la deuxième étape soit évidemment l'émigration en Israël et l'installation donc dans le pays. Alors, en 1979, s'est posée la question du Shabbat et le service dominical dans un certain nombre d'assemblées messianiques a été aboli et transféré donc au Shabbat. On a fait aussi un appel à tous les juifs qui étaient dans les églises pagano-chrétiennes, en disant que s'ils étaient là, ils étaient en quelque sorte en exil et qu'ils devaient rejoindre des congrégations messianiques. Alors évidemment, ça a créé des tensions aussi avec les églises pagano-chrétiennes. Bon, certaines églises messianiques ne se sont pas associées à cet appel-là, donc ça a été un petit peu mieux. Très vite, ces congrégations messianiques étaient essentiellement composées d'éléments très jeunes, issus donc de ce qu'on avait dit, soit de Jesus People, soit des mouvements messianiques, soit de gens qui étaient détachés donc de toute pratique juive. Évidemment, les gens plus âgés étaient moins ouverts à ce type de mouvement. Il est tout à fait intéressant aussi de voir que on a adopter aussi les non-juifs, parce que, comme je dis, beaucoup de ceux qui, de juifs américains, étaient mariés avec des non-juifs. Et ça posait un problème par rapport aux synagogues orthodoxes. Et alors, beaucoup de gens qui se trouvaient en porte-à-faux, de juifs qui se trouvaient en porte-à-faux du fait qu'ils étaient mariés avec des non-juifs, ou qui avaient, ou les enfants de ces gens-là, qui ne savaient plus ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient juifs, ou est-ce qu'ils n'étaient pas juifs? Bon, finalement, là, on trouvait un moyen de réconcilier, comment dirais-je, leur double identité, si j'ose dire. Et finalement, juifs et non-juifs ont été accueillis à part égale dans les assemblées messianiques, donc selon justement le fameux texte qu'on leur reprochait de violer, il n'y a plus ni juifs ni grecs, le Seigneur a abattu le mur de séparation, le mur d'inimitié, etc., de telle sorte que la progression du mouvement messianique aux États-Unis s'est faite essentiellement parmi des couples mixtes. Bon, alors c'est posé à partir du moment où il y a eu une rejudaïsation de ces assemblées messianiques. Qu'est-ce qu'il va se passer pour ces non-juifs, quoi? Alors finalement, on dit, si les non-juifs veulent venir au milieu de nous, eh bien, il y aura une seule loi pour le juif et le non-juif, donc il faudra qu'eux aussi respectent le Shabbat, mettent la kippa, etc. Et puis aussi, donc, c'est posé le problème de la cacheroute. Et un certain nombre d'églises messianiques ont adopté aussi la cacheroute, avec des nuances. D'ailleurs, logiens dont on parlait tout à l'heure, que autant que faire se peut, le juif messianique se doit de manger cachère, mais quand il est avec des non-juifs, donc c'est l'exemple d'Antioche, vous savez, on reprend l'exemple d'Antioche, le souci d'amour fraternel et de communion fraternelle avec les pagano-chrétiens prime sur la Torah, quoi. Donc là, la cacheroute est laissée de côté. Bon, ça me paraît assez juste, on peut discuter bien sûr aussi du bien fondé, même du fait, Paul semblerait dire que pour certains, ce sont des faits, bon, on doit les respecter. Donc, les juifs messianiques qui vivent cette dimension-là, c'est le cas de notre frère là-bas qu'on avait rencontré. Oui, c'est toi, c'est avec toi. Disent, écoutez, jugez-nous comme vous voulez, mais respectez-nous. Bon, je crois que ça, c'est bibliquement, ça paraît tout à fait logique. Bien. Chose aussi notable, c'est qu'un certain nombre de ces juifs, détachés de tout judaïsme, qui avaient redécouvert leur identité juive, certains en sont allés jusqu'à revenir ensuite au judaïsme orthodoxe. Et peut-être que justement le mouvement de rejudaïsation qui a marqué un certain nombre de ces assemblées n'est pas étranger non plus à cette évolution-là. Alors, au congrès de 1977, qui a eu lieu non pas à Messiah College, mais à Baltimore, s'est posé le problème des liens institutionnels avec les communautés chrétiennes, et il a été décidé que la Messianic Alliance of America devait rompre tout lien institutionnel avec les églises non messianiques, tout en gardant des liens fraternels. Donc, si vous voulez, un nouveau mouvement, une nouvelle dénomination a été officiellement entérinée à partir de cette période-là. Bon, c'est posé aussi dans cette même année le problème de la tradition charismatique. Certains étaient charismatiques, d'autres ne l'étaient pas, ce qui a aussi évidemment provoqué un certain nombre de tensions. Alors, les principaux centres de ce mouvement sont évidemment New York, Philadelphie, Toronto, au Canada, Houston, Albuquerque, donc au Nouveau-Mexique. Bon, et puis alors la Californie aussi, où il y a évidemment Los Angeles, San Francisco, Seattle, etc. Il y a de très nombreuses assemblées messianiques dans ces lieux-là. La volonté de reculturisation dont nous parlions, qui est évidemment un des points peut-être les plus discutables de de ces mouvements-là, les a conduits à entreprendre, d'abord lancer les danses folkloriques israéliennes au sein du culte. Et donc, ils ont précédé le mouvement qui devait aboutir aux excès de Toronto que nous avons dénoncé. Et puis aussi, donc, on a abandonné, à partir de des années 80, les fêtes chrétiennes, la fête de Noël en particulier. Beaucoup de juifs non messianiques reprochent à ces églises, non sans raison parfois, il faut bien le reconnaître, d'employer le folklore juif, alors des grandes étoiles de David sur le devant de leur synagogue, des grandes ménorotes, le talit et toutes ces choses-là, comme un peu des ficelles pour attirer pour attirer les juifs. Jouer sur une certaine confusion, faire croire que c'est un lieu juif, et finalement, au bout d'un temps, ceux qui le fréquentent se rendent compte que c'est un lieu où on prêche Jésus, etc. Bon, et on reproche à le judaïsme orthodoxe, comme d'ailleurs certaines églises chrétiennes, pagano-chrétiennes, reprochent à ces mouvements-là d'employer ce folklore-là aussi comme un truc d'évangélisation, quoi, pour les juifs. Bon, c'est évidemment discutable et je serais assez d'accord avec ce type de critique personnellement. Par exemple, on trouve aussi en Ohio une communauté qui est très très judaïsante. Bon, elle s'appelle Beth Yeshua, qui a été fondée en 1971, sous l'égide des Tchernoff notamment. On y trouve une congrégation qui, il y a quelques années là, était de 160 personnes environ. Alors, il y a d'autres assemblées du messianisme où alors là, l'accent juif est nettement moindre. Et dans certains lieux de culte messianique qui ont lieu le dimanche matin, tout le monde n'est pas passé au Shabbat, on se croirait dans un culte classique des assemblées de Dieu. Il y a absolument pas. Il y a quelques allusions au judaïsme, etc., mais guère plus que chez nous, à la limite, si vous voulez. Bon. À Los Angeles aussi, il y a une congrégation importante où se rassemblent les conventions, d'ailleurs, depuis 1973, qui, elles, prennent aussi le nom de Messiah, puisque, évidemment, là, on est sur l'autre côte, n'est-ce pas? Et là, donc, autour de cette congrégation de Los Angeles, en 1979, s'est créé ce qu'on appelait Union of Messianic Congregations. Donc, c'est un mouvement parallèle au Messianic Alliance of America, qui lui alors se veut un peu moins judaïsant, beaucoup plus classique. Et maintenant, ces assemblées, beaucoup d'entre elles, sont très marquées aussi par la culture évangélique américaine. Bien qu'ils se défendent de cette culture-là, ils en sont très marqués. Par exemple, vous savez, les problèmes des télévangélistes qui ont marqué aussi les années 80. Aux États-Unis, avec les scandales qui ont provoqué ces télé-évangélistes qui brassaient des sommes énormes et dont certains sont tombés dans l'adultère ou des péchés du même type, qui ont scandalisé toute la nation et le monde entier, et qui ont contribué considérablement à discréditer le monde évangélique. Eh bien, cette mentalité est très ancrée chez un certain nombre de juifs américains. Par exemple, beaucoup sont associés à ce qui a été créé comme un espèce de remake chrétien de Disneyland, qu'on appelle Melodyland, où alors vous trouvez toutes sortes d'attractions, où on a reconstitué Jérusalem en carton-pâte, vous pouvez rencontrer le roi David dans les rues de cette nouvelle Jérusalem, enfin bref, c'est comme à Disneyland, mais c'est chrétien, quoi, enfin c'est chrétien messianique. Bon. Vous avez alors, comme à Chicago, dans la fameuse cathédrale de verre, vous avez 10 000 personnes au culte le matin, la plus grande cathédrale de verre du monde. Vous avez des pendants de ça, un petit peu dans certains endroits, certains rêves d'imiter ces choses-là, ce qui marque les télévangélistes américains. Bon, il est certain que ce progrès aussi des assemblées messianiques aux États-Unis, qui stagne un peu maintenant à la fin du siècle, était très fort dans les années 70, un peu plus stable dans les années 80. Bon, les années 90, il y a parfois eu une régression. Il y a un certain nombre d'assemblées messianiques qui ont disparu. Certaines, simplement parce que les membres sont partis dans des assemblées classiques. Hein. Et donc là, pour le moment, ça ne progresse plus pour le moins, quoi. Hein. Ça se maintient, mais ça ne progresse plus. Parce que finalement, la société globale américaine est encore marquée très fort par les valeurs chrétiennes. Et puis, il y a eu évidemment aussi à la fin du siècle la fameuse troisième vague, le Vineyard, Toronto, le réveil dit de Toronto, qui avait donc aussi, dont un certain nombre de protagonistes étaient des gens qui avaient connu la Jesus Revolution, la révolution de Jésus des années 60, fin des années 70, et qui alors ont entraîné nombre de ces églises aussi dans ce genre d'extravagance. Là, il y a eu aussi quelque chose qui a été négatif, mais en même temps, ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que les églises qui sont issues de la Jesus Revolution des années 70 ont été très marquées aussi par le judaïsme, enfin par ce mouvement judéo-chrétien plus exactement. Par exemple, Chuck Smith, qui est le pasteur qui était le grand pasteur des Jesus People, que Yvon Charles et Fred Kossek ont rencontré dans les années 70, vient tous les ans en Israël avec un groupe de pèlerins très important, c'est pas, il est très très ami d'Israël, etc., et très très engagé de cette manière-là. Bon, il y a aussi les églises du Four Square Gospel, qui sont très marquées par ces mouvements-là. Et certaines églises pagano-chrétiennes sont assez proches de l'aile la moins judaïsante, si vous voulez, de ce mouvement-là. Il y a donc, si vous voulez, ce mouvement a provoqué, parmi les églises évangéliques américaines, une revalorisation du judaïsme. Et un réintérêt, donc, pour le judaïsme d'abord messianique, et puis le judaïsme tout court, le sionisme, etc. Et c'est finalement un impact qui a marqué beaucoup d'églises évangéliques américaines. Hein, même s'il y a eu des tensions, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu aussi une osmose, jusqu'à un certain point. Alors maintenant, à la fin du siècle, on peut se poser quel est l'avenir de ces congrégations messianiques. Bon, l'émigration en Israël n'est pas à l'ordre du jour, mis à part quelques individus isolés. Ces assemblées vont-elles pouvoir se maintenir? Finalement, c'était la grande question posée M. Korsman. Pour lui, c'était quelque chose de transitoire, c'est-à-dire un mouvement d'évangélisation qui, lorsqu'il aurait atteint sa stabilité, sa maturité, ce qui est le cas maintenant, aurait dû, n'est-ce pas, devrait, c'est pas encore trop tard, bien tirer les conséquences et puis venir en Israël, quoi. Il est évident que s'il y avait, parce qu'on compte à peu près entre 120 et 150 000 juifs messianiques américains aux États-Unis, c'est quand même considérable. Et c'est le plus grand réveil en milieu juif de l'histoire de l'Église, en dehors de l'Église ancienne, quoi. Hein. Bon, on pourrait peut-être parler aussi de l'époque des conversos en Espagne, ou des vagues de conversion en Allemagne au XIXe siècle. Peut-être qu'on retrouverait des chiffres de cet ordre-là, même certainement davantage en Espagne. Mais bon, les conversos, hélas, s'intégraient dans l'Église catholique pure et dure, et ensuite étaient persécutés. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, et qui bénéficie de l'extraordinaire tolérance et de l'extraordinaire liberté dont jouissent les États-Unis, et puis évidemment l'intolérance qui était celle de l'Espagne de la fin du Moyen Âge. C'est évident. Bon, on a aussi donc une église qui s'appelle Open Door Community Church, qui a été fondée en 1974 par un pasteur baptiste, et qui lui aussi a eu des contacts très étroits, et finalement une espèce de ouverture à ce mouvement messianique. Et si vous voulez, dans ces milieux-là, tant parmi les églises messianiques que les églises non messianiques, mais ouvertes au judaïsme, beaucoup de juifs ont retrouvé une certaine fierté, un certain prestige d'être juifs. Certains sont allés jusqu'à se retourner au judaïsme orthodoxe, nous l'avons vu tout à l'heure, mais de plus en plus d'églises non juives deviennent de plus en plus ouvertes au judaïsme. Par exemple, dans l'église Open Door dont je parlais il y a un instant, on y fait la lecture de la Torah. Hein? Bon. Alors, à côté aussi, il y a un autre mouvement juif aux États-Unis qui est le judaïsme réformé, qui est un mouvement qui est né, nous aurons l'occasion de voir ça en histoire d'Israël, au 19e siècle, en Allemagne justement, et qui a voulu en quelque sorte calquer le judaïsme orthodoxe sur le christianisme. Donc il y a on se croirait dans une église chrétienne, il y a l'or, il y a les bancs, il y a pas de talit, les hommes et les femmes sont mélangés, enfin on se croirait vraiment dans une église chrétienne. Alors si vous voulez, on a ce double mouvement aux États-Unis très intéressant, où vous avez des juifs, des congrégations juives qui ressemblent en tout point à des églises chrétiennes, et vous avez des églises chrétiennes, disons, congrégations chrétiennes, qui ressemblent exactement à des synagogues juives, quoi. Alors vous avez automatiquement, vous avez une osmose qui se fait. Hein? Le passage de l'un à l'autre se fait, ne serait-ce que par des relations d'ouverture, finalement. Il y a des recompositions qui se font au niveau des familles, etc. Au niveau de... Bon. Et puis à côté de ça, vous avez évidemment le judaïsme orthodoxe pur et dur, les rabbins, les gens de, comment s'appelle, les Lubavitch et tout ça, qui alors eux ne peuvent pas sentir les Jews for Jesus. On échange des orions, là ce sont des relations extrêmement tendues. Bon, enfin, on a aussi un judaïsme médian, qui est ce qu'on appelle le judaïsme conservateur aux États-Unis, qui est entre le judaïsme réformé et le judaïsme orthodoxe. Et là, donc, automatiquement, là aussi, il y a des contacts. Il y a des contacts entre tous ces gens-là, de telle sorte que là, actuellement, ce mouvement est manifestement une tournée de chemin, un croisement de chemin. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir? Quel est l'avenir de ce mouvement? Finalement, on ne sait pas trop. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, il y a une stagnation, enfin, un étal pour le moins. Il y a des recompositions. En sorte que un certain nombre de gens quittent ces églises pour aller dans le judaïsme orthodoxe, ou dans le judaïsme réformé, ou dans le judaïsme conservateur. D'autres quittent pour aller dans des églises chrétiennes plus classiques. Rien n'est assuré quant à l'avenir de ce mouvement. L'avenir dira ce qu'il en est. Bon, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est qu'il y a eu manifestement là un souffle de l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce qu'il en restera, est-ce que ce mouvement sera fidèle jusqu'au bout à sa vocation qui, je reste persuadé, je reste sur ce que pensait le pasteur Kaufmann, sa vocation c'est de rejoindre Israël à un moment ou à un autre. Le feront-ils volontairement ou forcés? Au moment du pont aérien qui a amené les Juifs d'Éthiopie en Israël en 1991-92, un rabbin d'Israël avait dit à des juifs américains qui étaient venus assister au spectacle, il dit un jour peut-être on sera obligé de faire un pont aérien pour vous ramener, vous, des États-Unis ici. C'est tout à fait envisageable, vu la remontée de l'antisémitisme à laquelle on assiste aujourd'hui à fond dans le monde. Bon, disons aussi que la Messianic Alliance of America s'est étendue ensuite au monde entier, dans ce sens que des assemblées comme celle de Guénassia, qui ont été créées en France, par exemple, se sont rattachées à Messianic Alliance, qui est devenue un international Messianic Alliance, donc automatiquement, mais dont les ficelles sont tirées aux États-Unis, hein, et qui donc a maintenant des filiales dans le monde entier. C'est devenu quelque chose qui chapeaute à peu près tout ce mouvement, qui est quand même nettement moins important en dehors des États-Unis qui ne l'est aux États-Unis. Les proportions sont loin d'être identiques. Mais bon, il y a en même temps aussi le désir d'un leadership très fort, n'est-ce pas? Même aussi sur Israël, désir de mettre la main sur Israël, l'hégémonisme américain, l'impérialisme américain n'est pas un vain mot. Je vous donne juste un petit exemple. J'avais été en contact épistolaire avec eux. C'est là qu'il m'avait invité, j'avais envoyé Keren en son temps, il m'avait invité à assister à un Messaya, plusieurs Messayas. J'ai reçu pendant un certain nombre d'années des invitations, puis comme je n'ai jamais donné suite, évidemment, j'ai cessé d'en recevoir. J'avais demandé d'ailleurs qu'il m'envoie des cassettes de temps en temps pour avoir un petit peu une idée de ce qui se disait là-bas. Et puis, donc, j'avais envoyé Keren, tout ça. Bon, une dame qui parlait français, donc, avait lu, trouvait très intéressant, etc. Et en quelque sorte, il aurait voulu que je mette la main sur Keren, quoi, que ce soit leur affaire, que ce soit dirigé depuis les États-Unis. Je, du coup, je regrette, mais c'est une œuvre qui n'a, qui n'est, non, qui restera autonome, etc. Ce jour-là, pff, terminé. Ils ont coupé. Ils ont coupé. Voilà ce que je pouvais dire sur les judéo-chrétiens. Vous avez des questions là-dessus?